Le plus beau métier du monde est un roman graphique de Dominique Reiche pour les textes et l'histoire et Éric Doxa pour les dessins. Dominique Reiche est professeur de français et d'histoire-géographie dans un lycée professionnel des quartiers nord de Marseille depuis 30 ans. Il raconte, dans son dernier ouvrage, son vécu de prof. Cela suffit, n'est-ce pas, à vous faire une idée de l'ambiance qui nous attend. On l'imagine déjà, légèrement déprimé, râlant contre les élèves et l'éducation nationale et se plaignant du niveau des jeunes qui n'est plus ce qu'il était. Ainsi, le titre donné à son livre « Le plus beau métier du monde » serait ironique. Ou bien, il se prend pour un héros et c'est tout aussi énervant. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. Dominique Reiche adore son métier et ses élèves, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout est facile et que le lycée où il exerce ressemble au monde des bisounours. Lorsqu'il n'est pas content, il le dit. Et les sources d'inquiétude ne manquent pas. Quand une élève disparaît dans la nature ou qu'un autre fait des crash tests sur des voitures plutôt que de venir en cours et qu'il se retrouve à l'hôpital. À l'extérieur, juste derrière les murs du lycée, il faut faire avec les dealers qui règnent dans le quartier, avec la violence prête à surgir, la pauvreté qui empêche d'avancer. Et entre le lycée et dehors, les murs sont parfois fragiles. Ces jeunes, qui n'ont pas une vie toujours facile, loin de là, possèdent malgré tout un formidable sens de l'humour, de la répartie. Ils sont curieux et tellement attachants. Dominique Reiche croit en eux, c'est évident. On sent le plaisir qu'il a à enseigner et à discuter avec ses élèves. Il aime leurs questions, désopilantes ou graves, décalées et bien souvent pleines de bon sens. Les jeunes savent aussi qu'ils peuvent compter sur lui. Il règne entre eux et ce professeur une confiance mutuelle qui fait du bien. Ancré dans la réalité, présenté sous forme de scénettes qui racontent la vie de tous les jours au lycée, mais on comprend bien que jamais une journée ne ressemble à une autre, le roman graphique « Le plus beau métier du monde », publié aux éditions Vibert, est un livre généreux et qui fait du bien. Bonjour Dominique Reiche et bienvenue à Secret d'écriture.
Bonjour.
Est-ce vous qui avez choisi d'exercer dans les quartiers nord de Marseille? Je devrais dire cela au passé puisque je viens d'apprendre que vous êtes maintenant à la retraite.
Oui, je suis en retraite effectivement après avoir passé 30 ans dans ces quartiers nord de Marseille. Et c'est moi qui ai choisi, ouais, parce que j'étais pion pour me payer mes études et j'ai eu l'occasion d'aller en collège, lycée classique et lycée professionnel. Et j'ai essayé de repérer un petit peu ce qui se passait, notamment dans la salle des profs. Et je me suis rendu compte qu'en lycée professionnel, il y avait une grande cohésion entre les professeurs. Il y avait une solidarité qui avait peut-être un petit peu moins ailleurs. Donc c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller dans un lycée professionnel et dans le quartier nord de Marseille en particulier. Ouais.
Pensez-vous que les élèves sont plus difficiles qu'autrefois?
Non, je suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant, pas du tout. Je pense que les élèves sont toujours les mêmes, ils ont leur propre questionnement, leurs problèmes. Ça peut être différent, mais en tout cas c'est pas pire, non, je crois pas.
Il n'y a jamais, selon vous, de cas désespérés parmi vos élèves. Vous le pensez vraiment?
Oui, je pense qu'il n'y a pas de cas désespérés. Il y a des gens qui sont, comme on dit très vulgairement, un peu mal barrés parce qu'ils se laissent prendre dans le réseau de trafic. Par exemple, le trafic de drogue qui est en face par la mafia locale. Et c'est vrai que ceux qui se laissent embarquer dans ce monde-là ne reviennent pas parce qu'ils deviennent, entre guillemets, des archives. Pour eux, c'est désespérant et désespérant pour nous aussi. On n'arrive pas à les retenir au lycée. Mais à part ces cas-là, il n'y a pas de cas désespérés, je crois, non.
Vous avez tout de suite su comment faire avec vos élèves ou il vous a fallu un certain temps avant d'y parvenir?
Alors, j'ai pas mal d'expérience parce que pour tout vous dire, moi, je suis né dans une école et je n'ai jamais connu que l'école. Mon papa était instituteur et donc j'ai appris à marcher entre les tables de l'école primaire. À 4-5 ans, je trempais déjà les doigts dans les encriers. J'entendais mon père qui remuait ses pièces de monnaie, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais au fond de sa poche, il fumait en classe. Donc c'était un peu toute ma vie, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis dit que c'était mon monde, mon domaine, et je n'ai vécu qu'au rythme scolaire. Je n'ai jamais connu que ça, et je m'en porte très bien d'ailleurs.
Et on est bien d'accord que tout ce que vous racontez dans ce roman graphique, vous l'avez vécu.
Absolument.
N'est pas exagéré.
Non. Alors, j'ai un dessinateur, bien sûr, qui dessine ce que je lui raconte. Alors, c'est vrai que le jour où des élèves vont sur le rond-point d'en face pour arracher des plantes, pour mettre dans ma salle de classe pour que ce soit joli en classe, alors, ça s'est arrivé, donc c'est parfaitement vrai. Alors, c'est vrai que le dessinateur, quand la page est terminée, c'est un peu la jungle dans ma salle de classe, mais c'est véridique. Ils ont effectivement, ils sont sont venus effectivement avec des plantes pour décorer ma salle. Ouais.
Et à ce sujet, comment vous avez travaillé avec Eric Doxa?
Alors, il est venu... On a travaillé
vous connaissez, pardon, vous le connaissiez avant?
Non, je ne connaissais pas. Non, c'est mon éditrice qui me l'a présenté. Un garçon fort sympathique avec qui je me suis vraiment entendu tout de suite et très, très sympa. Et donc, je lui ai raconté ma vie. Il est venu au lycée. Alors, les élèves étaient tout contents de lui montrer ce qu'il faisait dans les ateliers. Enfin, c'était vraiment... On a passé une journée formidable parce qu'ils adorent qu'on parle d'eux, évidemment, et qu'on parle d'eux en bien, faut pas se tromper. Et donc, ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire. Et donc, mon dessinateur était vraiment enchanté et il les a un petit peu croqués de façon très habile pour qu'on retrouve ces types de visages dans ma BD.
Donc, vous répétez avec vos élèves des pièces de théâtre, par exemple. Là, il est question de Cyrano de Bergerac.
Ouais.
Qu'est-ce que cela leur apporte de passer par le jeu, par le théâtre?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont... Vous savez, à Marseille, on parle souvent de la tchatche marseillaise, cette espèce de gouaille qu'ils ont. Ils adorent ça. Et donc, quand on étudie un texte comme Cyrano, d'abord, bon, faut bien choisir son texte, évidemment. Cyrano de Bergerac, il n'est pas beau, il a une histoire dramatique, mais il est fort, il est très intelligent... Il est plein d'émotions. Et donc, tout ça leur parle. Évidemment, il faut le présenter. Après avoir étudié quelques extraits, eh bien, je passe parfois des extraits de la pièce de théâtre. Celle avec Depardieu, par exemple, passe tout à fait bien. Et si on la fait jouer, je ne sais pas, la scène du balcon, par exemple, ils adorent ça. Et c'est vrai que ça rend la chose intéressante. Quoi. Je pense que pour ne pas intéresser des élèves avec Cyrano de Bergerac, il faut le faire exprès. Quoi.
Alors, je voudrais que vous nous racontiez la sortie avec les jeunes, un vernissage d'un peintre contemporain. C'est très drôle parce qu'ils disent vraiment à l'artiste tout ce qu'ils pensent.
Exactement. Ils sont sans filtre. Ils sont d'ailleurs dans toutes les situations, les élèves sont sans filtre. Alors cette histoire de scène quand ils sont arrivés, c'est vrai qu'ils ont posé toutes sortes de questions. Alors je les ai plus toutes en tête, mais quand ils leur demandent est-ce que vous avez peint comme ceux qui n'ont pas de bras avec les pieds pour faire ça, parce qu'ils trouvent ça un peu horrible en fait. Ils lui demandent si ces toiles c'est fait pour faire des paquets cadeaux. Enfin c'est tout et n'importe quoi, mais ils sont sans filtre et ils sont en permanence sans filtre. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a pas très très longtemps, juste pour je pense à ça parce que vous me posez cette question. Il s'agissait pas du vernissage, mais j'ai un élève qui, il y a pas très longtemps, la BD commence comme ça, qui rentre en classe, donc sans aucun filtre, qui met les bras en l'air et en criant à tout le monde, ça y est, je suis plus puceau. Et ça paraît incroyable. On se dit, mais comment on va, alors d'abord on rigole pendant une petite minute, et puis après, on travaille. Et je suis un peu souple, on va dire, je suis un peu gentil et en même temps je suis méchant. Ils ne savent pas trop, des fois ils me disent, on n'arrive pas à savoir si vous êtes gentil ou méchant, mais je laisse un petit peu l'expression libre pour pouvoir après dire c'est terminé, maintenant on travaille. Par contre, on a dit des bêtises, on a rigolé, mais c'est pour ça que maintenant on travaille. Je vous ai laissé un peu de liberté, maintenant c'est fini.
Avec Chirine, je ne sais pas si on prononce comme
oui,
ça.
Oui, Chirine, ouais.
Donc avec Chirine, l'une de vos élèves, vous avez une conversation très intéressante sur le voile.
Oui.
Elle s'étonne auprès de vous que dans son pays, les femmes manifestent pour ne plus le porter, tandis qu'en France, certaines ne sont pas contentes car elles aimeraient pouvoir le porter où elles veulent, quand elles veulent. Le voile est-il un sujet qui revient souvent avec les jeunes ?
Oui, ben notamment avec l'abaya, même si c'est un sujet un peu parallèle, parce que l'abaya, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que le sujet du voile revenait en fait assez souvent. Et c'est vrai que cette élève, cette gamine, était assez marrante parce que pour elle, c'était assez simple. Elle disait voilà, ceux qui sont ici, celles qui sont ici, on les fait partir là-bas, celles qui sont là-bas, on les fait partir ici. Et donc comme ça, tout serait réglé. Alors je lui ai demandé si elle pensait que c'était aussi simple. Et elle m'a répondu, je sais pas si c'est simple, mais c'est compliqué. C'était assez bon mot.
Très juste.
Très juste.
C'est très bien dit.
Ouais.
Et puis il y a Shadan qui arrive du Pakistan, puisque vous avez en effet dans votre classe, tous les ans, je suppose, des primo-arrivants.
Exactement.
Comment faites-vous avec eux? Car ils ne parlent pas tous français. Il y en a qui arrivent et qui ne parlent pas du tout le français même.
Oui. Shadan, par exemple, c'est quelqu'un qui arrivait du Pakistan, donc il ne parlait qu'anglais. Et donc, c'est compliqué. On ne nous apprend pas ça, évidemment, dans les écoles pour être professeur. Donc, il faut un peu inventer le métier. Moi, je me suis dit, par exemple, que j'allais utiliser Google Traduction, que je mets sur mon tableau numérique. Alors, je ne peux pas tout faire avec Google, mais il y a au moins un résumé à la fin du cours. Je le dis en français, ça traduit en anglais. Donc, lui, il a son petit résumé. Ça lui permet aussi de faire un peu de français écrit. Et donc, on trouve des moyens. Puis, je parle un petit peu anglais, donc je me débrouille. Mais parfois, c'est assez compliqué parce qu'on peut passer d'une langue à l'autre avant d'arriver à celui qui ne comprend pas le cours parce que il parle telle ou telle langue. Donc, des fois, on se traduit. Entre eux, ils se traduisent les trucs. Donc, c'est assez compliqué parfois.
J'ai l'impression en plus qu'il y a une vraie entraide entre eux dans ce cas-là.
Exactement. C'est marrant parce que c'est un peu à l'image des professeurs, justement. Quand c'est un peu compliqué, en général, c'est très humain, on se serre les coudes. Et aussi bien les professeurs en salle des professeurs qu'au niveau des élèves. Et je ne fais pas d'angélisme, mais je ne fais pas non plus de misérabilisme. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, notamment avec ces primo-arrivants, les immigrés clandestins qui ont traversé l'Afrique et la Méditerranée dans des conditions épouvantables. Et il y a effectivement une solidarité parce qu'ils veulent, ils ont une revanche à prendre sur la vie. Hein. C'est l'expression un peu bête, mais c'est vrai que c'est, ils ont une revanche à prendre sur la vie. Et donc, il y a effectivement une entraide. Et là, je peux vraiment compter sur ça.
Il y a une autre scène que moi, j'ai trouvée très, très drôle, dans laquelle vous annoncez à vos élèves qu'un inspecteur va venir dans la classe.
Oui.
Alors, racontez-nous.
Alors, je n'ai peut-être pas tous les mots, parce que je n'ai pas l'image devant les yeux.
Non.
Mais oui, les, par exemple, ils étaient très, très contents. Ils m'avaient fait quelques cadeaux pour bien montrer à l'inspecteur que j'étais un bon professeur, qu'ils m'aimaient bien, ils m'ont fait des cadeaux. Et ils avaient même un petit cadeau pour l'inspecteur. Il y en a un qui lui a dit, tenez, monsieur le commissaire, c'est pour vous. Parce que lui, bon, inspecteur, commissaire, il confondait un petit peu tout. Et il y en a même un qui m'a dit à moi, tant que je me souvienne, c'était, on a beaucoup apprécié le texte d'Amélie Zola. Alors, évidemment, l'inspecteur a rigolé, mais ça crée toujours une bonne ambiance. En tout cas, c'est des moments fantastiques.
Qu'est-ce que vos élèves ont pensé du plus beau métier du monde?
Alors, mes élèves, ils savent que j'écris sur eux. Comme je vous disais tout à l'heure, ils adorent ça. En même temps, ils adorent qu'on parle en bien d'eux. Et très souvent, alors c'est parfois mal compris. D'ailleurs, il y a quelques personnes, quelques lecteurs qui ne comprenaient pas ça. Et donc, j'essaie de l'expliquer. Les élèves, parfois, font exprès, me proposent de faire des bêtises ou de faire des gags en me disant « c'est peut-être bien ça pour la BD ». Alors, je dis « non, surtout pas, ne faites pas exprès de faire n'importe quoi pour rentrer dans la BD ». Mais ils sont sympas au point de dire « si on fait ça et ça, c'est bon, monsieur, pour la BD ». Voilà. Alors, moi, je trouvais ça plutôt marrant, donc je l'ai mis dans la BD. Parfois, c'est un peu mal compris. Il y a des gens qui me disent « bah oui, mais si c'est pas vrai, pourquoi vous le racontez ?» Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est vrai qu'ils me proposent de faire des bêtises. Ça, je trouvais ça plutôt marrant.
Ça ne vous manque pas de ne plus être professeur ?
Si. La réponse est courte, si. Mais le temps passe. Voilà, j'ai 62 ans, donc maintenant, c'est terminé. Mais la rentrée, surtout, l'excitation de la rentrée, les nouveaux élèves, les nouveaux collègues, l'excitation, oui, ça me manque, ouais.
Ça vous manque. Moi, c'est peut-être l'occasion de faire un tome 2 au plus beau métier du monde.
C'est possible, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter, parce que c'est vrai qu'il s'en est passé en 30 ans. Ouais.
Merci Dominique Reich. Vous allez nous lire un extrait, l'introduction.
Si vous voulez, merci à vous. Un accident. Un accident de la route. Je suis là, au volant, et je perds patience depuis 20 minutes. Les gens ont l'air sains et saufs, la voie semble dégagée, alors qu'est-ce qu'on attend pour passer? C'est que j'ai des élèves sur le feu, moi. Ils sont là-bas, dans le couloir, et ils se demandent pourquoi leur prof n'est pas encore arrivé. Je les imagine bien. Chirine et Lancinet sont un peu inquiets. Mais certains commencent à se réjouir. J'entends des voix. Celle de Dylan en particulier. À mon avis, Reich, il est absent, on devrait tous se tirer. Je suis pas absent, Dylan, je suis en retard. Et je vois très bien que cet accident n'est pas dramatique. Honnêtement, il y a la place pour faire passer un camion. Alors s'il vous plaît, monsieur l'agent, faites quelque chose pour débloquer la situation parce que mes élèves ne vont pas attendre 107 ans comme ça sans bouger. Bon, ne me voyant pas, ils se sont sans doute installés dans ma salle de classe que j'oublie toujours de fermer à clé. Fatia et Melville doivent proposer d'aller se renseigner auprès de Fouzia, la CPE, pour savoir si je suis absent ou simplement en retard. Mais Dylan les arrête dans leur élan. « Faites pas ça, vous allez nous faire remarquer !» La tension grimpe d'un cran. Un collègue est obligé de laisser ses élèves sans surveillance pour tenter de calmer les miens. Nouvelle apparition, j'imagine une bagarre. Est-ce la panique là maintenant ? On va savoir. Une ambulance, des pompiers, des condés, partout. Prof dans les quartiers nord de Marseille depuis 30 ans, j'ai l'habitude d'entendre dire qu'ici, les problèmes finissent toujours par se régler à coups de kalachnikov. Et cet embouteillage monstre qui dure. 8h15, j'arrive enfin au bahut. Du parking, je vois mes élèves, ils m'interpellent depuis les fenêtres de ma salle. Jolie brochette qui prend tranquillement le soleil. « Vous inquiétez pas, monsieur, hein, on n'a pas voulu commencer le cours sans vous. » J'adore ce métier, c'est le plus beau du monde. Même quand Dylan m'en veut de faire les choses à moitié, être seulement en retard et pas complètement absent. Ce moment qui prête à sourire figure parmi des centaines d'autres, émaillant chacune de mes années dans ce lycée réputé difficile. Je dédie cette BD à tous mes chers élèves des quartiers nord de Marseille qui ne m'ont jamais déçu.
Nous allons passer au questionnaire secret d'écriture. Votre mot préféré?
Ami.
Celui que vous détestez?
Le mot que je déteste, c'est orgueil.
Votre endroit préféré au monde?
Alors, mon nom préféré, c'est difficile parce qu'il y a pas mal d'endroits qui me tiennent à cœur. Je repense souvent à un endroit que j'ai pas vu depuis longtemps. C'est la cuisine du logement de fonction de l'école de mon enfance. J'ai vécu des moments merveilleux. Puis le deuxième endroit, je sais pas si je peux en avoir deux. Deuxième endroit, c'est juste devant la porte de mon frigo parce qu'il y a la photo de mes enfants dessus.
Votre dernière lecture?
Alors, je viens de finir la trilogie de Pierre Lemaitre, Les Enfants du Désastre. Donc, extraordinaire.
Votre prochaine lecture?
Alors, c'est Le Grand Monde de Pierre Lemaitre.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire?
Quand il y a un petit peu de bruit dans la maison.
Pourquoi écrivez-vous?
Alors, j'écris parce que mon père m'a appris à écrire. Il a disparu, hélas, très tôt. Donc, je n'ai pas connu beaucoup. Et puis, la deuxième raison, c'est parce que j'ai eu un professeur de français qui m'a dit un jour que dans la vie, c'est intéressant de remplir un rayon de bibliothèque, c'est-à-dire à peu près un mètre, d'écrire à peu près un mètre de bouquin. Alors, j'en suis pas un mètre, j'ai calculé à peu près 40 centimètres, j'ai regardé un jour, ce qui fait à peu près une dizaine de bouquins, mais je n'ai pas encore un mètre, mais c'est pour ça que j'écris.
Où écrivez-vous?
Alors, j'écris dans la chambre de mon fils, qui est maintenant grand et qui fait sa vie. Donc, j'aime bien dans sa chambre.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez? Et si oui, laquelle?
Oui, j'écoute de la musique. En fait, j'écris mal quand j'écoute de la musique, mais j'adore la musique, donc je le fais quand même. Et j'écoute beaucoup les Rolling Stones, Peter Gabriel, Genesis, des choses comme ça, qui sont un peu de mon époque, on va dire.
Luttez-vous contre la page blanche? Et si oui, comment?
Ah oui, alors pour lutter contre la page blanche, j'arrête la musique. Et c'est assez efficace.
Contre quoi vous défendez-vous?
C'est difficile à dire. Honnêtement, je pense que je me défends comme tout le monde contre la bêtise malveillante.
Merci beaucoup, Dominique Reich.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre roman graphique, Le plus beau métier du monde, avec pour les dessins Éric Doxa, et c'est publié aux éditions Vibert. Et j'ai oublié de préciser que la préface est d'Olivier Nakache et Éric Toledano.
Ouais. Les réalisateurs qui ont fait Intouchables, qui ont vraiment la gentillesse de me... Bah, apparemment, ils ont bien aimé ce que je racontais avant et là, c'était sympa de leur part de faire la préface. Ouais.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À très bientôt.